Bon, Hachem, nous sommes arrivés à l'étape de Barer. On a fini le repas, on a consommé l'afikoman. On a maintenant en main la troisième coupe, qui sera bue comme kos shel bracha et comme troisième coupe de Pessah après donc le birkat hamazon. Et donc on va prononcer le birkat hamazon. C'est l'occasion de s'arrêter un petit peu sur ce texte que l'on prononce si souvent rapidement, trop rapidement. Pour certains, trop de fois par cœur, sans avoir le texte sous les yeux, alors qu'on sait que c'est une grande ségoula de réciter le Birkat Hamazon avec un texte sous les yeux, etc., etc. Donc peut-être que, encore une fois, le fait que le Baal Haggada nous ait donné une étape définie pour Barer, c'est vraiment pour nous dire, voilà, ce soir-là, Barer, essaye de bénir comme il faut, essaye de faire la bracha comme il faut, de manière plus concentrée que les autres soirs de l'année. On sait en effet que le Birkat Hamazon, toujours bon de se rappeler que c'est la seule bracha d'Eoraïta. C'est la seule bracha qui est instituée par la Torah de manière certaine. En tout cas, les trois premières brachot du Birkat Hamazon, la quatrième ayant été instituée par les Chachamim. Donc ce soir de Pessah, où nous allons être dans une grande concentration, profitons-en pour réaliser un Birkat Hamazon particulièrement concentré et pouvoir, entre guillemets, racheter tous les Birkat Hamazon qu'on aura malheureusement bâclés au cours de l'année. On voit dans le Noussar du Birkat Hamazon, on dit « Unvarechecha alea bigdusha uftahora ». Pardon, pas dans le Birkat Hamazon, dans la bracha de Mehen Shalosh, dans Alamichia. Donc on dit « Unvarechecha alea bigdusha uftahora ». On va te bénir avec sainteté et pureté. Et donc ça, on le dit dans un texte qui est finalement assez court, qu'on appelle Mehen Shalosh, c'est-à-dire que c'est une sorte de texte de substitution du Birkat Hamazon. Et la question que pose le Rebbe de Belz est de savoir pourquoi dans le Birkat Hamazon, on ne dit pas la même chose. Si déjà, dans la récitation du Mehen Shalosh, qui est un texte court, qui est encore une fois un substitut, on doit faire les choses Bigdusha Uftahora, alors a fortiori que le Birkat Hamazon, lui aussi, doit être dit Bigdusha Uftahora. Il a expliqué tout simplement que lorsqu'on fait un repas seudat pat, c'est-à-dire un repas de pain, ici en l'occurrence de matzah, qu'on le prépare comme il faut, selon les enseignements du Shulchan Aruch, qu'on se lave les mains, qu'on fait netilat yadayim comme il faut, on voit dans Masechet Brachot ou Daf Tetvav Amud Aleph que celui qui fait netilat yadayim selon les règles, c'est comme s'il s'était trempé au mikvé. Alors, sans autre rajout que cela, on va déjà être Bigdusha Uftahora. C'est-à-dire que le fait même que l'on s'installe manger, qu'on fasse Netilat Yadayim, qu'on fasse Motsi, qu'on soit face à un véritable repas qui a été préparé selon toutes les règles de la halakha, on mange Bigdusha Uftahora. On mange dans un état de sainteté et de pureté. Tandis que dans le cas de Mehen Shalosh, quand on a juste mangé un snack, on a mangé un biscuit, on a mangé des fruits, on a mangé des Eretz Israël, on a bu un verre de vin comme ça, alors on n'a pas la même préparation, on n'est pas dans la même concentration, et donc on a besoin d'intégrer dans la prière le fait qu'on veut bénir Akadosh Baruch Hu Bigdusha Uftahora. Dans ce qui concerne le Birkat Hamazon, si jamais on a fait un repas comme il se doit, alors Mimela, automatiquement, on est dans un état de Gdusha Uftahora, ce qui nous ramène à tout ce que nous avons dit lors de l'étape de Shulchan Orer sur la sainteté de la table. C'est rapporté au nom du Rav Frida, un enseignement qui se trouve dans son commentaire sur le Zohar, Parashat Vayakel, qui s'appelle Nitzot Seorot, qui était réédité dans l'édition du Rav Margoliot. Il nous dit là-bas que c'est une grande ségoula de faire le Birkat Hamazon bekol ou besimcha, à voix haute et avec joie. Et ça, c'est une ségoula pour s'enrichir. Il rapporte à ça un remez, une allusion, qui se trouve dans Sefer Michelet, où il est écrit « Birkat Hashem ita ashir, velo yosif etsevima ». C'est-à-dire, mot à mot, la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire le Birkat Hamazon, qui, comme nous l'avons dit, la seule bracha qui était prescrite par la Torah, Yita Ashir, c'est elle qui amène la richesse, à condition que Velo Yosif et Tsevima, qu'on ne rajoute pas mot à mot de tristesse avec. C'est-à-dire que si on est dans un état de joie, qui se manifeste par la mélodie, qui se manifeste par la voix, alors véritablement, le Birkat Hamazon sera une ségoula pour une bonne parnassa. Beaucoup de poskim rapportent également le fait qu'il est très important de lire le Birkat Hamazon dans un livre. On sait que le Rav Shach était particulièrement précautionneux sur ce sujet. C'est également rapporté au nom du Rebbe de Zéville. Il a dit à une personne lorsqu'il était jeune, « Chez Im Retsono Bevanim Yireim » que si on veut avoir des enfants qui aient la crainte du ciel, alors il faudra faire attention à dire le Birkat Hamazon dans son sidour. Et donc on a énormément de témoignages de tzadikim qui évidemment connaissaient le Birkat Hamazon par cœur sans aucun problème, et qui étaient extrêmement précautionneux sur ce point, comme notamment le Rebbe de Tchébin qu'on a déjà cité, et qui récitait véritablement le Birkat Hamazon mot à mot dans le sidour. C'est rapporté dans les Sfarim également que le Rabbi Rebiber, donc le Maguid de Meserich, avait l'habitude d'être extrêmement concentré dans son Birkat Hamazon, plus encore que pendant la Hamida. Quand on lui a demandé la raison de la chose, il dit « Pourtant la Hamida c'est le centre de la Tfila, et on ne vous voit pas aussi concentré dans la Hamida que dans le Birkat Hamazon. » Il a tout simplement répondu que la Hamida est entre guillemets une simple mitzvah des Rabbanan, tandis que le Birkat Hamazon est une mitzvah d'Oraïta, et ô combien il faut se concentrer à ce moment-là. Alors, le Birkat Hamazon est entouré également d'énormément de mitzvot, et notamment la mitzvah de Kos Shel Baracha, le fait de faire le Birkat Hamazon sur un kos. Il y a beaucoup de récits dans la Gemara qui soulignent l'importance de cette mitzvah, et également le inyan de Maim Acharonim, le fait de se laver les mains avant de faire le Birkat Hamazon. À propos de la Zgoula que représente le Kos Shel Baracha, dans la fameuse histoire de Yalta dans la Gemara, mais pour raconter une histoire qui est plus proche de nous, le Rav Yosef Margoliot raconte que lors de l'une de ses visites à Anvers, c'était Rosh Chodesh Av, et il était donc à l'époque chez Rav Itzikel, qui était à l'époque le Rebbe d'Anvers, le Rebbe de Pshvorsk à Anvers. Et donc, il dit que le Rav Itzikel cherchait partout un endroit où pouvoir faire Kos Shel Baracha. Et étant donné que c'était le mois de Av déjà, chez les Ashkenazim, on ne boit pas de vin le jour de Rosh Chodesh Av. Et donc, il cherchait un endroit où il y avait une Seouda de Sioum. Donc, il a trouvé le Rav Yosef Margoliot, lui a dit, écoute-moi, j'ai une Maseret à finir, je vais faire le Sioum. Et au moment du Birkat Hamazon, Rav Itzikel lui a dit, écoute, c'est vrai que en vérité, c'est toi qui devrais faire la bracha sur le kos, parce que c'est quand même toi qui as fait le sioum. Moi, j'ai juste été spectateur. Mais malgré tout, il dit, moi, j'ai besoin d'une refoua. Et une bonne segula pour avoir la guérison, c'est de faire la bracha sur le kos. Et en plus de ça, j'ai l'habitude, chaque Rosh Chodesh, de faire le Birkat Hamazon à la kos. Alors il s'est emparé de la mitzvah de la bracha sur le kos du Birkat Hamazon, de manière à pouvoir obtenir donc cette ségoula. Alors avant de commencer le Birkat Hamazon, on a la coutume dans la plupart des communautés de faire Maïm Acharonim. Il y a malgré tout des communautés qui n'ont pas ce minag. C'est un minag qui a pour raison, comme on le sait, le sel de Sodome, c'est-à-dire le fait qu'il y avait un sel provenant de la ville qui avait reçu donc cette punition d'Akadosh Baruch Hu, et que ce sel peut donc aveugler. Et donc les Chachamim ont institué de se laver les mains après le Birkat, avant le Birkat Hamazon, pré-manger, de manière à se nettoyer les mains, et que si jamais il y avait du sel de Sodome, on s'en débarrasse. Beaucoup de poskim ont dit que de nos jours, il n'y a plus de sel de Sodome, et que donc il n'y a plus cette nécessité, mais les kabbalistes, comme souvent, ont expliqué qu'il y avait un sens caché qui allait au-delà de ce simple problème entre guillemets matériel du sel de Sodome, et que même s'il n'y a plus de sel de Sodome, alpinistar, selon la Kabbalah, il y a une nécessité de faire Maïm Acharonim. Et c'est rapporté dans le Shahar HaMitzvot de Rabbi Chaim Vital, donc l'élève du Harizal, qu'il ne faut absolument pas donc s'interrompre entre Maïm Acharonim et le Birkat Hamazon. Il raconte une histoire qui arrivait avec le Harizal, chez qui une personne s'est rendue et lui a dit que depuis 2 jours, elle a extrêmement mal à l'épaule. Donc il a demandé au Arizal s'il peut avoir une bracha, un michéberach, quelque chose, pour pouvoir le sortir de ses, de son problème d'épaule. Sur quand on a le Arizal sous la main, c'est plus rapide que d'aller chez le kinésithérapeute. Et donc le Arizal l'a regardé et lui a dit que la raison pour laquelle il avait mal à l'épaule, c'est parce qu'il s'est interrompu entre Maïm Acharonim et le Birkat Hamazon pour lire des Mishnayot. Alors on ne parle pas de quelqu'un qui s'est interrompu pour des Dvarim Betelim. Donc une personne qui, par piété, a voulu lire des Mishnayot probablement avant de faire le Birkat Hamazon. Il lui a dit, en faisant ça, tu as transgressé ce qu'ont dit nos sages dans la Gemara Brachot ou Daf Membet, Techef Lintila Bracha. L'expression du Talmud, c'est Techef Lintila Bracha, c'est-à-dire immédiatement après la Netila, après s'être lavé les mains, Bracha, on fait le Birkat Hamazon. Il lui a dit, comme tu as interrompu l'ordre, alors le mot Techef également s'est retrouvé en désordre. Et au lieu de Techef, on est passé à, qui veut dire immédiatement, on est passé à Katef, qui veut dire l'épaule. Et donc c'est pour ça que tu as mal à l'épaule, parce que tu t'es interrompu. Il dit, c'est pourquoi il faut faire attention à ne pas s'interrompre entre Maïm Acharonim et le Birkat Hamazon, même pour des divrei Torah, celui qui voudrait dire des divrei Torah, qu'il les dise avant de faire Maïm Acharonim. Encore un autre élément qui arrive avant le Birkat Hamazon, c'est bien évidemment le Zimoun, lorsqu'il y a trois hommes. Et donc, on peut se poser la question, il y a deux questions qui se posent. Une première question qui se pose pour tout le Olam, pourquoi on dit Birchut, Moraï, Verabotai, on utilise un terme, des termes extrêmement, on va dire, élogieux, alors que parfois, on a des personnes tout aussi simples que nous en face de nous. Pourquoi les affubler de ces termes de Moraï, Verabotai, mes maîtres, mes rabbins? Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est sur les Ashkenazim, qu'est-ce qui leur est passé par la tête d'abandonner cette formulation du chasse et de dire Rabotai Mirvelen Benchen, de dire en yiddish. Alors sur la première question, il y a un enseignement très intéressant du Rebbe de Amchinov de Brooklyn qui dit qu'en fait, le problème c'est que lorsqu'on va faire le Zimoun, on invite les gens à bénir Akadosh Baruch Hu. On va dire Nevarer Shachanu Michelo, bénissons à celui dont nous avons mangé. Et ça peut sembler être une forme d'orgueil, de gava. Pourquoi ? Ben ça voudrait dire que moi, qui fais le zimoun, je comprends, je suis conscient du fait qu'il faut bénir Dieu, mais vous autres, il faut que je vous y éveille pour que vous répondiez au zimoun. C'est-à-dire que ça peut être vu comme étant une forme d'orgueil, de supériorité mal placée par rapport aux autres convives. Et nous dit le Rebbe, c'est pour ça qu'à ce moment-là, quelles que soient les personnes qu'on a face à nous, on dira Birchut, Moraï, Verabotai, c'est-à-dire que volontairement, on se rabaisse vis-à-vis des personnes qui sont devant nous. Alors parfois, il y a évidemment des gens qui sont nos maîtres, qui sont nos maîtres et nos rabbins, mais parfois, même si on a des gens qui sont des simples personnes comme nous, alors on les appelle quand même Moraï, Verabotai, pour montrer qu'il ne faut pas considérer cet appel aux Zimoun comme étant une forme d'orgueil. Concernant le fait de savoir pourquoi on dit pourquoi les Ashkenazim disent Rabotai Mirvelen Benchen, donc il y a un enseignement de Rabbi Tzrak de Varka qui est très marrant, enfin, moi qui je trouve assez drôle. Il dit qu'en fait, quand on fait le Shmoné Esrei, quand on fait la Amida, il faut une Achana, il faut se préparer. Et comme il fallait se préparer, les Chachamim ont institué de faire avant le Kiryat Shema. Et comme il faut faire le Kiryat Shema, ben, il faut faire les brachot du Kiryat Shema. Donc on a mis du Kiryat des Brachot avant et après. Mais comme il faut se préparer au Kiryat Shema, alors on a institué les Psukei des Imra. Mais ça aussi c'est devenu une tefila, puisqu'on a commencé par Baruch Shamar, on a clôturé par Ishtabach. Donc ce qui était préparation de la Amida est devenu en soi une tefila. Et alors comme c'est devenu une tefila, il faut une achana. Alors on a encore ajouté tout ce qui précède les Psukei des Imra. En la davasof. C'est vrai que lorsqu'on compare ce qu'il faut dire dans la tefila, dans le chasse, et qu'on voit ce que nous on a dans notre sido, on se dit qu'effectivement on pourrait prier beaucoup plus rapidement peut-être. Et donc chaque partie qu'on a rajoutée est devenue elle-même une partie intégrante de la tefila. Et il nous dit, le Birkat Hamazon, si on a besoin d'une achana. Alors si on avait dit Rabotai, Nevarer, si on utilisait véritablement la formulation en hébreu, Alors, les Chachamim auraient dit, bon, ben, ça veut dire que Rabotai, Nevarer, c'est en soi déjà une tfila. Il faut aussi une achana à la tfila. Et alors, comme En la Davar Sof, étant donné que l'homme, après le repas, n'est pas forcément dans la même situation de Kavana qu'il peut l'être avant la tfila, parce que voilà, il s'est un petit peu, on va dire, investi dans les choses du monde. Il dit, c'est pour ça qu'on a institué de faire le Zimoun en allemand, en yiddish, de manière à ce qu'on ne considère pas que c'est la tfila et que les rabbins ne viennent pas nous rajouter encore des tfilotes introductives. Alors pour se rapprocher un peu plus de la spécificité de la fête, donc nous allons lire pendant le Birkat Hamazon du Seder le texte de Ya'alev Yavo. Donc on a l'habitude de dire, soit pendant les Yamim Tovim, soit pendant Rosh Chodesh. Donc il y a quelque chose de particulier dans ce texte-là. On voit qu'on dit Zochenu Hashem Elohenu Bo Letova. Ou Foktenu Bo Livracha. Donc souviens-toi de nous. Hashem Elokenu, éternel notre Dieu, Bo. Donc, ce jour-là, l'Etova. Ou Foktenu Bo Livracha. Souviens-toi de nous pour la Bracha. Veoshenu Bo Lechaim Tovim. Délivre-nous, donc, à la fois Bo Lechaim Tovim pour une longue vie. Et en fait, le Maharaj de Bobov pose la question de savoir pourquoi on répète trois fois ce mot Bo. On ne comprend pas véritablement quelle était la nécessité. On aurait pu le dire une seule fois. Zochenu Letova, ou Foktenu Livracha, Veoshenu Lechaim Tovim. Pourquoi dire trois fois Bo? Ça ne sert à rien. Il a voulu expliquer ça d'après les paroles du Rambam, qui sont connues, et qui sont basées sur un pasouk dans Iyov, au chapitre 3, qui dit Yashanti, Az Yanuachli. J'ai dormi, et alors je me suis reposé. Et on insiste sur le mot Az, Aleph Zain, qui a pour valeur numérique 8. Le Rambam nous dit qu'il faut dormir 8 heures par nuit, comme le Mispar Az. Pour ceux qui dorment un peu moins, d'après le Ben Ishra, il faut dormir minimum 6 heures et maximum 8 heures. Mais dans la chaîne du Rambam, c'est 8 heures. Ve'az Yanuachli. Et alors, j'aurai un véritable repos. C'est-à-dire que, comme on l'a dit antérieurement, que le Rambam, dans le repas, et dans toutes les choses de la nature, l'objectif est de pouvoir servir à Kadash Baruch Hu comme il faut. Et donc le Rebbe continue à expliquer, en disant qu'en fait, d'après le Rambam, il faut étudier 8 heures dans la journée. Il faut également être mitparnes, il faut travailler pour sa subsistance pendant 8 heures. Et donc les 24 heures de la journée sont coupées en trois parties égales de 8 heures. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures pour étudier. Et oui, même les gens qui travaillent devraient étudier 8 heures par jour. Et donc il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué trois fois Bo dans Ya'alev Yavo, car le terme Bo, Bet Vav, a également pour valeur numérique 8. Et il trouve une allusion à chacun des termes. Premièrement, Zochenu Hashem Elohenu Bo Letova. C'est quoi Tova? En Tov et la Torah. Le premier Bo se rapporte aux 8 heures que nous devons passer par jour à étudier la Torah. Ufoktenu Bo Livracha, le deuxième Bo, on parle de bracha, il s'agit des 8 heures que l'on doit passer pour gagner sa vie et donc obtenir la bracha de la parnassa. Vioshinu bo lechaim tovim, et donc délivre-nous donc pour une bonne vie, et bien ce sont les 8 heures que nous devons passer à dormir dans 24 heures, de manière à pouvoir vivre chaim tovim, une bonne vie, c'est-à-dire une vie équilibrée, une vie en bonne santé. On va finir avec une histoire sympathique qui racontait à propos de différents rébés, mais là on va la raconter à propos de Rabbi Zusha d'Anipoli. On dit que Rabbi Zusha d'Anipoli, chaque matin, donc c'est le frère de Rabbi Elimelech de Lizensk, pour ceux qui ont raté cet épisode, donc Rabbi Zusha d'Anipoli, tous les matins, après avoir prié, disait « Maître du monde, Zusha a très faim. Zusha a envie de manger quelque chose. S'il te plaît, mon Dieu, donne-lui quelque chose à manger. » Et à ce moment-là, lorsque son shamash entendait le Rebbe Zusha s'exprimer de la sorte, il entrait dans la pièce et il lui servait, donc selon la coutume, un morceau de gâteau et de quoi boire. Et un jour, le shamash a commencé à en avoir un petit peu marre de ce cérémonial du Rebbe Zusha, et il trouvait que c'était quand même un peu gonflé de la part du Rebbe de demander à Dieu de lui apporter à manger, alors qu'en fait, celui qui faisait le travail, c'était le shamash, c'est lui qui allait préparer en cuisine le gâteau et le café ou le thé que Rabbi Zusha buvait tous les matins. Et donc un matin, le Shamash a dit, aujourd'hui, je vais faire la grève et on va bien voir ce qui va se passer lorsque Rabbi Zusha va commencer à nous faire son discours à Kadosh Baruch Hu en demandant à manger. Donc ce matin-là, comme d'habitude, Rabbi Zusha s'est trempé au mikveh pour aller prier. C'était un jour pluvieux, comme il arrive souvent dans ce genre de contrée, et les rues du shtetl étaient remplies de boue. Alors comme on fait généralement quand il y a de la boue et qu'il n'y a pas de rue, on met des planches pour pouvoir passer d'un côté à l'autre. Et donc Rabbi Zusha était en train de marcher sur les planches qui permettaient d'aller d'un côté à l'autre du village, en route vers le Beth Knesset, et il a vu en face de lui un étranger, une personne qui n'était pas de la ville. Et lorsque cet étranger a vu ce vieil homme un peu, on va dire, hagard et en panique parce qu'il voulait aller vite au Beth Amikdash, au Beth Knesset, pardon, bah, il s'est dit on va lui faire une petite blague. Et tout simplement, il l'a poussé dans la boue. Donc Rabbi Zusha est tombé dans la boue. Et donc l'étranger qui avait réussi son coup était éclaté de rire. Et il est allé raconter ça, évidemment, il est allé raconter le coup qu'il venait de faire à l'aubergiste chez qui il résidait. Alors, l'aubergiste lui a dit, tu peux me décrire. Bon, l'aubergiste qui était de la ville voulait savoir qui avait été la victime de cette mauvaise blague. Et donc il lui a demandé de lui décrire la personne qu'il avait poussée dans la boue. Et donc quand il a commencé à entendre le descriptif, il a compris qu'il s'agissait de Rabbi Zusha. Alors il lui a dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as poussé Rabbi Zusha de Hanipoli dans la boue? Tu te rends compte de la gravité de tes actes? Alors, cet étranger qui était probablement un farceur, mais pas forcément un mauvais juif, a commencé à paniquer en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais pouvoir me racheter? C'est pas possible, c'est terrible ce que j'ai fait. Alors l'aubergiste lui a dit, écoute, on sait que Rabbi Zusha passe longtemps à prier le matin, il est très concentré dans cette filote, mais après cette fila, ben, il sera sûrement très content d'avoir quelque chose à manger et quelque chose à boire. Prépare-lui quelque chose, apporte-lui, et je suis sûr qu'il acceptera de te pardonner. Et donc ce matin-là, Rabbi Zusha a fini ses prières, a enlevé cette filine, et a dit, comme il en avait l'habitude, « Maître du monde, Zusha a extrêmement faim et envie de manger. S'il te plaît, donne-lui à manger quelque chose. » À ce moment-là, le Shamash qui était derrière la porte n'a pas bougé d'un pouce en attendant de voir ce qui allait se passer. Il a dit, il s'est dit en lui-même, si le Rebbe demande à manger à Hachem, qu'Hachem lui serve à manger. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre et rentre cet étranger avec dans les bras un plateau avec des pâtisseries et de la liqueur. Il les a placés devant le Rabbi Zusha pour lui demander pardon. Et à ce moment-là, il est devenu évident pour le Shamash que ce n'était pas lui qui donnait à manger à Rabbi Zusha, mais véritablement à Kadosh Baruch Hu, qui est Noten Lechem Lechol Basar, Azan Et Haolam Kulo Betuvo Bechen Bechesed Uvrachamim.